Ça fait plusieurs mois que j'ai un fardeau pour l'Église. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église d'Yverdon, mais c'est l'Église, nos églises, où c'est comme si Dieu me dit, mais parle de deux choses, de la crainte de Dieu, parce que c'est comme si Dieu me disait, mais mon peuple a perdu la crainte de Dieu. Et la deuxième chose, c'est parle de la vie de l'esprit. Comme si ce temps de Covid a handicapé notre vie de l'esprit dans notre propre existence, mais aussi dans la vie de l'Église. Et c'est comme si ces deux réalités, la crainte de Dieu et la vie de l'esprit, ont été quelque peu atténuées par les circonstances de nos vies, qui fait qu'on est moins réceptif à ces dimensions. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre si on demande plus d'effusion du Saint-Esprit. Mais qu'on n'a pas la crainte de Dieu, ben ça ne va pas marcher. Et je pense que Dieu veut nous parler en tant qu'Église de réveil sur cette dimension de la vie de l'Esprit. C'est l'évangile aux quatre angles, hein, vous connaissez, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son Esprit, Jésus revient. Et ce Jésus qui baptise de son Esprit, finalement, on s'en est vite contenté et puis on vit. La bonne franquette avec lui. Et puis Dieu nous dit en ces temps, retrouvez la vie de l'esprit, retrouvez-la dans votre vie, retrouvez-la dans votre couple, retrouvez-la dans votre église, retrouvez-la dans les groupes de maison, retrouvez-la dans votre témoignage à l'extérieur de l'église. Et c'est comme quelque chose qui nous a été un peu volé ou un peu ratatiné. J'aimerais vous parler justement de la vie de l'esprit. Déjà dans notre vie personnelle. J'aimerais vraiment vous laisser ceci comme pas simplement un message de Jean-Jacques Levis, mais vraiment un message de la part du Saint-Esprit qui a envie de pouvoir être beaucoup plus épanoui dans nos vies, dans la mienne aussi. Et c'est tout un travail que je refais aussi, comme vous pouvez aussi peut-être le refaire. De retrouver la place que le Saint-Esprit devrait avoir, et de lui redonner. Et je vous propose ainsi de pouvoir commencer à la fin de l'évangile de Luc, dans ce temps justement où Jésus va promettre son Esprit Saint. Et vous avez les slides, là j'ai donné à Believe les versets que je vais parler. Donc, si vous n'avez pas pris, prenez votre Bible, lisez-la, c'est important. Ouvrez-la, notez-la. Mais si vous n'en avez point, eh bien, vous l'avez sous les yeux. Et Jésus s'adresse à ses disciples en disant: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est Luc 24, verset 49 qui dit ici. On connaît ces versets. Ce sont des versets qui nous réjouissent jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est vrai que quand on se convertit, on va bien entendu recevoir ce Saint-Esprit en nous. Mais c'est comme si Jésus nous dit ici, il y a plus que la conversion. Il y a un revêtement particulier que Jésus désire donner à ses enfants, à ses disciples. Et ça devrait en tout cas nous paraître évident à chacun de nous que le Saint-Esprit est entré dans notre vie à notre conversion. Parce que des fois, en tant que pentecôtisant, charismatique, on met tout le Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit, comme s'il n'y avait que ça. Et on oublie toute la façon extraordinaire que le Saint-Esprit agit dans notre vie dès notre conversion. Dès le moment où on se tourne vers Jésus. Et Romains 8, pardon, le verset 9, il est évident, et il nous dit ceci: par votre conversion, ça c'est moi qui l'ai remis pour qu'on puisse comprendre le contexte, hein, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. J'ai une petite parenthèse en disant bien sûr que l'esprit de Dieu habite en moi. Je ferme la parenthèse. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous dites, je n'ai pas l'esprit de Christ en moi, vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'à notre conversion, il y a quelque chose qui se passe. Dieu vient nous rencontrer dans notre vie, dans notre corps. Et sans être baptisé du Saint-Esprit, le chrétien va bien évidemment manifester la réalité du Saint-Esprit dans sa vie. Alors, je ne veux pas être exhaustif, parce que je pourrais passer des heures, mais j'aimerais vous donner quelques points pour vous convaincre, si vous ne l'êtes pas encore, que le Saint-Esprit agit déjà dans votre vie, même si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, même si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. D'abord, la lecture de la Bible. Quand je lis la Bible, le Saint-Esprit me parle. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit te parle. Et des fois, on oublie d'ouvrir nos oreilles, mais il nous parle. Il a parlé ce matin à notre frère qui nous a parlé de cette persévérance. Il nous parle et il vous parle certainement à vous aussi. Il me parle peut-être pas forcément sur tout un chapitre ou tout un livre, mais sur un verset en particulier, un verset qui va répondre à mes prières, un verset qui va m'éclairer sur une situation de vie ou sur un point théologique, un verset que je vais être amené à partager autour de moi, un verset que je vais être appelé à proclamer dans ma vie, un verset que je vais être appelé à vivre dans mon quotidien. Et oui, le Saint-Esprit nous parle, et c'est important de le rappeler. Ce n'est pas simplement un livre de chevet, la Bible, c'est la parole de Dieu pour moi chaque jour. Et c'est la même chose pour vous. Continuons dans cette liste qui aura quelques points. J'aimerais parler de la sanctification. C'est le contexte de Romains 8 que Paul va reprendre avec les Galates, il va reprendre avec les Éphésiens, avec d'autres églises aussi. Et voici ce que Paul dit en gros. « Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, je n'accomplis plus les désirs de la chair. Mais je vais accomplir les désirs de l'Esprit. » Ainsi, je sais toujours très clairement dans mon cœur si ce que je fais plaît à Dieu. Je ne peux pas abuser les autres. En tout cas, moi, je ne peux pas m'abuser. Si je fais quelque chose de mal, je le sais. Si je pêche, je le sais. Si je ne pêche pas, je le sais aussi. Mais quelque part, ma vie, avec cette action de l'Esprit, fait que les choses vont être soit blanc, soit noir. C'est jamais gris. Jamais gris clair. Jamais gris très très clair. Jamais gris très 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 très, très clair. Et des fois, nous sommes, nous chrétiens, des spécialistes pour nous justifier par telle ou telle excuse. Oui, mais dans les circonstances que je vis, dans la situation, tu ne peux pas comprendre, etc. Non. Le Saint-Esprit nous rappelle que quand on fait le bien, on le fait. Et quand on fait le mal, on le fait. Et il n'y a pas de demi-mesure. Si je pêche, je le sais très bien. Et je ne dois pas oublier que je suis, comme vous, le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en moi. Et que je dois honorer aussi ce Saint-Esprit en ne faisant plus les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'Esprit. Puis ensuite, j'aimerais vous parler de la repentance. Le verset suivant nous dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Vous savez, il arrive quand même que malgré notre vie extrêmement sainte, extrêmement merveilleuse, extrêmement proche de Dieu, extrêmement à genoux tous les jours, le nez dans la Bible, il arrive parfois qu'on pêche quand même. Et oui, si ce n'était pas le cas, on le saurait. Et on pêche. Mais à chaque fois qu'on pêche, le Saint-Esprit est attristé. Il est attristé. Quand nous revenons à Dieu, parce que c'est important de pouvoir revenir à Dieu quand on pêche. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu en disant « bon, ben, c'est foutu, j'ai péché, c'est comme ça ». Non, le fait que j'ai péché me dise « mais je dois retrouver cette communion que je perds, que je suis en train de perdre, et je vais revenir à Dieu ». Et parfois, ce sentiment de tristesse que le Saint-Esprit a, nous l'avons aussi. C'est aussi un sentiment, des fois, de honte, d'indignité. Seigneur, pardon. Et ce sentiment d'indignité, de honte, le Saint-Esprit en nous va l'augmenter. Parce que plus le péché est gros pour moi, plus la grâce sera grande. Vous connaissez ce verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et plus ma propre vision de mon péché est importante, plus le pardon sera réel et plus ma vie va être transformée. Parce que nous sommes aussi les spécialistes des péchés mignons. Vous savez, un péché mignon, c'est un péché mignon. Mais pas pour Dieu. Mais si je le vois comme un péché de deuxième ou de troisième ou de 25e catégorie, puis que finalement ça ne gêne pas beaucoup ma relation avec Dieu, ni avec mon épouse, ni avec les membres de l'Église, puis que je m'en satisfais, eh bien, je vais me faire croire que ça va bien alors que ça ne va pas bien. Et le Saint-Esprit en moi va décupler l'importance de ces péchés mignons pour qu'ils perdent leur côté mignon, puis qu'ils redeviennent un péché complet, enfin réel, un péché aussi grave que les autres. La Bible me dit que le Saint-Esprit est en moi et qu'il me convainc de justice, de péché, de jugement, non pas pour m'enfoncer, non pas pour me dire « Ah, tu vois combien tu es méchant et mauvais et indigne de moi ». Non ! Si il nous convainc de péché, de justice et de mort, c'est pour nous permettre de nous relever, de nous repentir, c'est-à-dire de demander pardon, de nous éloigner de ce péché et de revenir à Dieu. Et le Saint-Esprit, ainsi, dans notre vie, c'est un petit peu comme un feu rouge qu'on pourrait trouver dans une voiture qui nous indique quand quelque chose dysfonctionne. Vous savez, il y a des fois des pannes puis ça s'allume. Eh bien, dans notre vie chrétienne, on a envie de casser cette lumière rouge qui s'allume parce que ça nous dérange souvent. On n'a pas envie de changer, on a envie juste que ça s'arrête. Donc on prend notre marteau spirituel puis on casse ce petit feu rouge pour que ça s'arrête. Mais non, ne le cassez pas si ça s'allume. Si ça s'allume, c'est que peut-être je suis en danger et je dois m'arrêter, je dois réparer ce qui est cassé. Et puis, le Saint-Esprit est aussi tenace, il est aussi persévérant, il ne va jamais s'arrêter de clignoter tant que ma vie ne sera pas réparée. Et parfois, on vit dans le rouge, avec des lumières rouges partout, parce que dans notre vie, eh bien, il y a des choses que nous devons réparer et qui sont toujours en projet de réparation. J'aimerais ensuite parler de la consolation. Jésus l'a annoncé très clairement à ses disciples en Jean 14, verset 16. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit en nous, c'est un parfait consolateur quand nous sommes dans la peine. Et le mot ici, certainement que vous avez déjà entendu des prédications sur ce sujet, ce mot « consolateur » est un mot grec, bien sûr, qui dit « parakletos ». C'est ce mot qui est riche de sens, parce que le premier sens de « parakletos » en grec, c'est bien sûr le consolateur, celui qui vous redonne espoir. Franchement, j'ai besoin de ce Saint-Esprit consolateur. Parce que l'espoir est quelque chose qui est vite fugace. Parce que souvent, je suis éteint, assis, fatigué des choses qui sont tout le temps les mêmes choses. Ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes au travail. Et j'ai besoin de retrouver espoir. Qui peut me donner espoir? Eh bien, Dieu lui-même, par son esprit, en moi, peut me redonner espoir et peut aussi redonner un sens à notre vie, un sens à ma vie. Mais le mot parakletos, ça veut aussi dire un avocat, vraiment un défenseur, quelqu'un qui se tient à nos côtés, qui est pour nous, qui est de notre côté et qui est là pour nous défendre. Et souvent, vous avez peut-être lu dans la Bible, il a dit, mais quand vous serez mis dans les tribunaux, je ne vous le souhaite pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit lui-même vous dira les choses que vous devez dire. Eh bien, ce Saint-Esprit, avocat, consolateur, défenseur, va vous aider, va vous permettre de pouvoir sortir de situations qui sont compliquées. C'est aussi, ce Paracletos, une aide qui nous soutient et qui va nous encourager. Et là, on se rend compte que finalement, ce Saint-Esprit, il est au centre de notre vie émotionnelle parce qu'on a vraiment besoin de repères pour pouvoir continuer dans notre vie. Et enfin, le Saint-Esprit est un conseiller qui nous dirige dans notre vie, c'est ce mot paraclétos toujours, qui nous apprend à marcher dans la direction de Dieu. Et j'ai trouvé important ces quelques mots, il nous apprend à marcher dans la direction de Dieu. Parce que des fois, on a notre chemin, on l'a. Et des fois, c'est difficile que notre chemin et le chemin de Dieu ça soit superposé. Et j'aime bien dans ce que Dieu dit dans les Proverbes, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » J'aime beaucoup ce verset. C'est un verset de conversion pour moi. « Mon fils, donne-moi ton cœur, convertis-toi, et que tes yeux, que tu aies du bonheur à marcher dans les chemins que je veux tracer pour toi. » Eh bien, ce Saint-Esprit est celui qui m'apprend à trouver le chemin de Dieu dans les méandres de ma vie. C'est riche, hein, ce Saint-Esprit en nous. Enfin, l'enseignement. Bien sûr, je suis enseignant de la parole, donc je ne vais pas laisser de côté ce point essentiel dans la vie de l'Esprit. Toujours dans ce même chapitre de Jean, au verset 26, nous lisons « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Alors en fait, on voit que le Saint-Esprit il a deux fonctions, je dirais éducatives, pédagogiques en nous. Il est celui qui m'enseigne toutes choses. Waouh ! Cela signifie que quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos questionnements spirituels, quelles que soient nos hésitations dans nos choix, ou encore l'apprentissage de la maturité chrétienne, le Saint-Esprit est celui qui va m'apprendre à prendre les bonnes décisions. Je ne suis pas tout seul quand j'ai à prendre des décisions. Le Saint-Esprit est là. Mais pour cela, il faut que je fasse taire les bruits qui sont dans ma tête. Ce fourmillement d'idées, de solutions, de partis pris obtus qui foisonnent dans mes pensées, eh bien, je dois les abandonner. Je dois apprendre à laisser le Saint-Esprit parler, me parler, parfois dans le silence, parfois dans l'adoration, parfois dans la lecture de la Bible. Il y a dans le chapitre 50 du prophète Ésaïe, un verset que j'aime beaucoup. Il est dit ceci, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Et moi je me suis dit, je vais apprendre, et j'apprends, hein, comme vous, à prier la Bible. C'est-à-dire, je lis quelque chose dans la Bible et j'essaie de le redire sous forme de prière. Bien sûr que ça va m'engager. Ce n'est pas simplement un exercice de style pour faire un exercice de style. Mais ça m'a engagé en disant, Seigneur, ce que je vais te prier, je vais le faire. Et puis, j'ai essayé de modifier ce verset en prière en disant, Saint-Esprit, « Éveille mon oreille chaque matin pour que je puisse t'écouter, moi, ton disciple. » Et c'est une petite prière, mais qui a de grandes conséquences, parce que ça veut dire que je dois faire taire toutes mes propres idées, toutes mes solutions, pour laisser le Saint-Esprit me parler. Et vous savez quoi ? Il nous parle. Et puis, il est dit aussi dans ce verset, « Il me rappelle tout ce que Jésus nous a dit. » Alors, c'est chouette, même si notre société occidentale nous pousse toujours à vouloir de l'inédit, du nouveau. Le chrétien doit vraiment considérer les paroles de Jésus comme étant non seulement des paroles qui ont été écrites il y a 2000 ans, mais des paroles qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui ont toujours la même force, la même puissance, la même réalité, même si des siècles ont passé. Et le Saint-Esprit a dans ma vie cette autorité pour me rappeler les choses que Jésus nous a dites. J'ai dans ma poche ici un attel que je vais sortir. Voilà. Dans mon attel, j'ai une application qui s'appelle Rappel. Vous l'avez aussi. Je crois que je n'ai jamais utilisé cette application dans mon attel. Ça fait 15 ans que je n'ai jamais utilisé cette fonction Rappel. J'utilise des post-it, des petits bouts de papier. Ma femme, souvent, me rappelle des choses. Mais jamais j'ai utilisé ça. Et en fait, je ne sais même plus que j'avais cette application. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je suis amené à utiliser cette application Rappel, c'est non seulement pour qu'elle puisse me rappeler ce que je dois faire, mais aussi que je le fasse. Par exemple, si je me rappelle en disant lundi 14 mars à 10h, rendez-vous chez le dentiste, eh bien, le rappel va fonctionner, bip, 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 rendez-vous chez le dentiste dans une demi-heure. Ah oui, mince, ah, il faut que j'y aille. Bon, ben, j'y vais. Ou acheter des fleurs pour l'anniversaire de ton épouse, mais je n'ai pas besoin forcément d'un rappel sur mon attel pour y penser. Hein. Mais en fait, on a tous une application rappel qu'on peut utiliser ou non. Et chaque fois que je vais devoir utiliser cette fonction, cette application, eh bien, je devrais faire ce que le rappel me demande de faire. Autrement, ça ne sert à rien que je mette rappel si c'est pour rien en faire. Vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit me rappelle les choses de Jésus. Alors, si vous avez une vie avec une application dans votre cœur qui s'appelle Rappel, eh bien, je vous propose de cocher cette application, de l'enfoncer en disant « Saint-Esprit, je t'autorise à me rappeler les paroles de Jésus dans ma vie pour que je puisse les mettre en pratique. Pas juste pour que je fasse spirituel, pas pour que ça me fasse du bien, mais pour que je fasse ce que tu me dises. Ainsi, si demain matin, je lis l'évangile dans l'épître de Jean, par exemple, chapitre 14, verset 27, et que Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et je lis ça demain matin. Et c'est comme si c'est un rappel que le Saint-Esprit me donne, les paroles de Jésus. Eh bien, vous savez quoi? Quoi qu'il va se passer dans cette journée, je vais rester dans la paix. Je ne vais pas m'alarmer. Je vais vivre ce que le Saint-Esprit me montre. Et que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail ou partout ailleurs, je vais être dans la paix que Dieu me donne. Et si je suis confronté à des situations de harcèlement, de tension, d'engueulade aussi par patron ou un chauffard qui me double et qui n'est pas content parce que je roule trop vite, ou pas assez vite, pardon, eh bien, je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas m'alarmer, je ne vais pas me troubler des circonstances ou d'un accident qui pourrait... Non, je reste dans la paix. Un tout petit exemple, et je vous propose que demain, quand vous allez ouvrir votre Bible, eh bien, vous puissiez dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me rappeler aujourd'hui? Et je vous promets que ça va déménager. Et puis, j'ai le point 6 aussi. Mais j'ai mis trois petits points, parce que finalement, je pourrais continuer encore et encore pour vous parler de l'importance du Saint-Esprit en nous. J'aurais pu vous parler du fruit de l'Esprit, des promesses reçues par le Saint-Esprit, de l'Esprit d'adoption ou encore de l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Mais j'ai quand même voulu prendre du temps ce matin pour vous montrer combien le Saint-Esprit a une activité conséquente et passionnante en chacun de nous, même sans être baptisé du Saint-Esprit. Vous avez peut-être été attentif à ce que tout ce qu'on a entendu maintenant, cette activité que le Saint-Esprit a en nous, ne concerne que la personne elle-même dans sa vie privée. Lire la Bible, être sanctifié, se repentir, être consolé. On aurait pu même parler du fruit de l'esprit. C'est que personnel, c'est que pour moi. Et à un moment donné, à la fin de son temps de ministère avec ses disciples, Jésus va prendre la parole et il va dire ceci. « Mes amis, maintenant, ça va changer. » Et nous lisons le verset que nous avons lu tout au début. On peut continuer. Jésus va leur dire, les choses vont changer maintenant. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ça veut dire que les disciples vivaient déjà avec cette dimension de l'Esprit dans leur vie, mais Jésus leur dit, maintenant ça va changer. Il y a quelque chose de plus qui va arriver, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui va terminer le travail que j'ai commencé avec vous. Et ce quelque chose, eh bien, c'est ce que Jésus, en Actes 1,8, leur dira. C'est le verset qui est souvent associé. Hein. Luc a écrit l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Et dans cette continuité du chapitre 24, vous avez Acte 1 où il nous dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous nous rendons compte maintenant que le revêtement de la puissance d'en haut dont parle Luc, c'est plus du tout pour sa propre personne, plus du tout dans l'intimité de sa chambre comme le travail du Saint-Esprit l'avait fait dans cette première partie de la prédication. Vous savez, une vie bien cachée au regard des autres. Mais ça devient différent, vraiment. C'est le fait maintenant d'être un témoin visible dans ce monde, d'abord dans l'Église, dans le cadre de l'Église locale, puis ensuite à l'extérieur de l'Église. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous sortirez de vos chambres. Vous serez mes témoins et vous sortirez de votre vie intime avec le Saint-Esprit pour pouvoir exporter finalement cette bonne nouvelle hors de vos murs. Alors quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est souvent le parler en langue. » Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai du tout, dans le sens que ce n'est pas que ça. Mais si on croit à tort que quand Jésus il nous dit qu'il va nous baptiser de son esprit, eh bien on va vivre toutes les choses que j'ai partagées jusqu'à maintenant, plus de parler en langue, alors là on a des chrétiens accomplis. Yeah! Je suis un chrétien accompli. Mais non, des fois on s'illusionne nous-mêmes, il y a des croyances qui sont fausses, même dans notre propre cœur, que le Saint-Esprit a besoin de nettoyer, de laver, pour pouvoir y mettre la vérité, la saine doctrine. Alors ça sert à quoi le Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, finalement, si c'est plus que le parler en langue ? Alors écoutez bien, la première pensée ou la pensée première de Jésus pour recevoir ce revêtement de la puissance d'en haut, c'est d'être équipé, non pas pour sa satisfaction personnelle, mais premièrement pour être témoin dans ce monde qui nous entoure et d'aller à la rencontre de son prochain. Et ça, ça change. Et ça, ça nous dérange un peu quand même. Pour Jésus, les disciples ne pouvaient pas accomplir ce qu'ils devaient faire sans avoir vécu cette expérience surnaturelle. Ce n'était pas possible. Autrement, ils ne l'auraient pas dit. Et en d'autres mots, Jésus leur dit, ne partez pas avant d'avoir reçu la puissance d'en haut, ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, quand vous aurez reçu ce revêtement, vous pourrez sortir et puis faire de toutes les nations des disciples. C'est très cohérent quand Jésus parle de ce revêtement de la puissance de Dieu. Pierre l'a dit dans Acte 2, on le sait d'autant plus aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Nous avons absolument besoin de cette puissance pour témoigner et pour évangéliser comme Jésus nous l'a demandé. et d'avoir des résultats en relation avec ceux du livre des Actes. Parce que les dons du Saint-Esprit sont là aussi pour nous accompagner dans ce processus d'évangélisation. Ainsi, ce baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un parler en langue personnel pour notre temps avec Dieu, mais c'est la porte d'entrée au surnaturel, c'est la porte d'entrée à l'évangélisation avec de la puissance dans notre vie. Et Jésus va prendre cette initiative de parler du surnaturel. Nous, on ne l'aurait pas fait. En Marc 16, pardon, le verset 17 et 18, Jésus dit ceci: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si ça, c'est pas surnaturel, qu'est-ce que c'est? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ça, c'est une partie de verset que j'ai personnellement pas encore essayé. Je me suis arrêté au ver de terre quand je fais mon jardin. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est le surnaturel que Jésus nous invite à entrer. Et il est clair que dans cette pensée de Jésus, le surnaturel, c'est un élément non seulement fort, mais aussi un élément indispensable dans la vie de ses disciples. Et ce surnaturel, ce n'est pas seulement pour la vie de l'Église, c'est pour la vie de l'Église, mais c'est aussi pour l'évangélisation. Et la preuve, c'est que si on continue à lire Marc 16, le verset 20, il est dit, une fois qu'ils recevront, voici les signes, hein, ce surnaturel, qu'est-ce qui se passe après? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. On voit donc que les textes que nous lisons et ceux que vous connaissez aussi vont aussi être de la même sorte, c'est-à-dire qu'ils vont relier expressément le baptême du Saint-Esprit au surnaturel et à l'évangélisation comme les deux côtés d'une seule et même pièce de monnaie. Ne partez pas avant d'avoir reçu la promesse d'en haut, nous dit le Seigneur. Et des fois, on ne part pas du tout, même si on l'a reçu. Mais Pierre l'avait bien compris. À la Pentecôte, il reprend les paroles du prophète Joël lors de la première prédication de l'histoire de l'Église et il va dire « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » C'est en acte 2, le verset 17. Et ça veut dire que ce n'est pas simplement des élus qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, mais c'est des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des servantes, des serviteurs, des patrons, des patronnes, tout le monde. Finalement, chacun, vous et moi, sommes au bénéfice du surnaturel de Dieu. Vous connaissez la suite. Ce n'est pas simplement la première prédication de l'histoire de l'Église, c'est aussi la première campagne d'évangélisation de l'histoire de l'Église. Et le résultat m'a toujours rendu admiratif. 3000 personnes converties, baptisées d'eau, baptisées du Saint-Esprit, le même jour. Alors moi, je me dis, mais des fois, j'ai la bonne bouteille, j'ai la bonne étiquette, puis quand je regarde dedans, ben je m'aperçois que c'est plus vide que plein. Des fois, c'est complètement vide. Puis je dis, mais Seigneur, remplis-moi de cet esprit que tu promets à tes disciples, que tu as promis à tes disciples à la Pentecôte, pour que je vive et fasse les choses que les disciples dans le livre des Actes des Apôtres ont faites. Et je veux participer à cette joie de l'expansion de l'Église. Mais quand je vois mes résultats à moi, j'ose pas dire vos résultats à vous, hein, mais parce que je vous connais pas trop. Mais quand je vois mes résultats à moi, je me dis, mais qu'est-ce qui te manque? Peut-être la persévérance, hein, comme on a dit ce matin, c'est peut-être une parole qui était importante. L'histoire de l'Église a commencé avec le surnaturel. Mes amis, l'histoire de l'Église va finir avec le surnaturel, avec nous. L'histoire a commencé avec l'évangélisation du monde, l'histoire de l'Église va finir avec l'évangélisation du monde. C'est les promesses de Jésus d'ailleurs, en Matthieu 24. Toutes les nations entendront parler de Jésus, alors viendra la fin. Je vais terminer avec acte 4. Alors quand je dis je vais terminer, je vais vraiment terminer. Hein, je ne veux pas être prédicateur qui font 15 000 conclusions. Pierre et Jean ont été mis en prison à cause de leur foi et de la guérison miraculeuse d'un boiteux de naissance, qu'on lit en acte 3. Les responsables juifs les ont menacés et les ont fait pression sur eux pour qu'ils cessent d'évangéliser. Quand ils ont été libérés, ils sont retournés vers les autres apôtres et ils ont prié en ces termes. Et je trouve que c'est intéressant. Donne à tes serviteurs un temps de repos pour qu'ils puissent panser leurs plaies, faire un petit moment de vacances pour qu'ils puissent se dire « Mais voilà, Pierre, Jean, vous avez beaucoup été sollicités, vous avez été attaqués, on vous met un petit peu en retrait, on vous donne un petit peu des vacances, de l'argent de poche pour que vous puissiez vous faire du bien, et puis ne vous inquiétez pas, Jésus est avec vous, Dieu est bon. » Non ! Ils disent « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Ils disent « Mais on veut y retourner. » On ne veut pas nous arrêter, nous les enfants de Dieu. On veut continuer à évangéliser, on veut continuer à parler du nom de Jésus, on va continuer à manifester et du surnaturel et de l'évangélisation. Et ils disent même, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Puis un petit peu plus loin, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. C'est ce Saint-Esprit que je veux, mes amis, pour moi. C'est ce Saint-Esprit que je veux pour vous. Et si on regarde finalement la conclusion, elle sera inscrite ici. Vous avez deux réalités du baptême du Saint-Esprit. D'abord l'évangélisation, être un témoin rempli d'assurance. Et c'est ce que nous sommes. Et puis ensuite, ce surnaturel, être équipé de la puissance et des dons du Saint-Esprit, et c'est ce que nous sommes. Et c'est vrai que le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord un équipement de puissance pour être les témoins de Jésus là où nous vivons et là où il nous enverra. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Et en venant dans la voiture, je priais pour vous, et puis j'ai reçu une parole, je vous la donne comme ça. Église de Bienne, ne dis pas 2022, ça sera une année sans. Sans pasteur, sans ci, sans ça. Dis plutôt, 2022, c'est une année avec. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit dans l'Église, mais avec le Saint-Esprit dans ma vie. Et je vous invite à nous recueillir et puis à prier pour vraiment laisser ce Saint-Esprit reprendre ses droits dans notre vie, reprendre la direction de notre vie. Prions. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pas simplement pour nous consoler, merci parce que tu le fais, pas simplement pour nous enseigner, merci parce que tu le fais, mais aussi pour aller et pour être équipé, pour sortir de nos murs, pour sortir de notre chambre haute et comme les disciples, annoncer ta parole avec des signes qui accompagne ces paroles. Et Seigneur, on veut se présenter devant toi, seul à seul. Et j'aimerais te prier pour que tu puisses toucher les uns et les autres et que notre prière soit « Moi, je veux de cette vie-là. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux que les choses changent dans l'Église. Et si c'est ta prière, bien, je te propose simplement, pas de te lever, mais de mettre tes paumes, tes deux paumes en direction du ciel en disant « Je veux recevoir. Je veux recevoir ce que tu veux me donner. Je veux recevoir ce Saint-Esprit. Je veux recevoir ce revêtement de la puissance d'en haut. Je l'ai peut-être reçu, mais je l'ai éteint. Je l'ai peut-être reçu, mais je l'ai mis à la cave, oublié dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, je veux comme réinitialiser la vie du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Rien. Et je te demande aujourd'hui de toucher ma vie, de toucher mon cœur, de toucher mon couple, de toucher l'Église, de nous faire retrouver cette joie de l'Esprit, cette joie de la vie de l'Esprit dans l'Église. Et alors que nous sommes en prière, Seigneur, tu es en train de parler à nos cœurs et tu nous dis que cette année, c'est une journée avec. C'est une journée avec. C'est une journée avec. C'est un lendemain avec. C'est une année, une semaine, un mois avec. C'est une vie avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes comme dans Matthieu 24. Les choses changent et nous te laissons changer ces choses parce que, comme nous l'avons chanté, tu es le Seigneur de notre vie. Amen.